Avoir raison avec Jalid Butler. De toutes les grandes figures de la pensée américaine dont il a été et sera question dans cette série d'avoir raison avec cet été sur France Culture, Judith Butler est la seule encore vivante. La seule donc à ne pas avoir fini d'écrire, de s'engager et peut-être même d'évoluer. Depuis le début de cette série, il a été question chaque jour de l'importance de l'engagement féministe de Judith Butler, véritable fondement de sa pensée. On l'a vu, la philosophe américaine s'adresse d'abord aux féministes de son temps pour les enjoindre à ne plus confondre le sexe et le genre, à ne plus fonder leur combat politique légitime pour l'égalité sur une représentation normée de la femme. Cela ne signifie pas que sexe et genre n'ont aucun lien, mais il s'agit d'ouvrir la possibilité de repenser ce lien, par exemple dans une perspective lesbienne et queer. La question est éminemment politique. Elle met en jeu la constitution de chacun et chacune comme sujet, la grande affaire de Judith Butler, qui s'inscrit en cela dans le sillage de Michel Foucault. Mais contrairement aux philosophes français, elle ne s'attache pas à montrer l'historicité de cet enjeu de la constitution du sujet. C'est le grand apport théorique du concept de performativité, inspiré des travaux de John Austin sur le langage, mais aussi de la psychanalyse de Freud à Lacan. Les réactions ont parfois été vives du côté des féministes aux travaux de Judith Butler. On citera notamment Martha Nussbaum ou Nancy Fraser qui reprochait pour l'une à Butler de ne pas comprendre le concept de performativité ou en tout cas de le détourner et ainsi de priver les femmes de certains outils de résistance, l'autre d'être très théorique et donc éloignée du combat féministe au quotidien. Pourtant, Judith Butler reconnaît volontiers que le féminisme, ce n'est évidemment pas que de la théorie. C'est un mouvement, un engagement politique qui a sans cesse été informé par la pratique et ce qui vaut pour le féminisme vaut d'ailleurs aussi pour d'autres formes d'engagement. Là où les luttes contre les mécanismes de domination sont en jeu, le racisme, la démocratie, les réfugiés, la question palestinienne, Judith Butler, trouble dans le féminisme, c'est le thème de ce quatrième volet de notre série « Avoir raison avec Judith Butler ».
Personnellement, j'ai beaucoup de dettes vis-à-vis d'autres auteurs. Lorsque j'écris, je tiens la plume avec une quantité de gens vivants ou morts qui sont avec moi dans ma voix, dans mon écriture, dans ma plume. Notamment pour ce qui est du féminisme. Où serais-je sans Simone de Beauvoir? Et toutes les penseuses et penseurs féministes qui sont venues avec moi. Donc je m'inscris dans une chaîne historique. Mais bien sûr, j'apporte ma petite touche, ma petite inflexion. Mais je ne dirais pas que c'est complètement singulier ni complètement créatif.
Bonjour, Elsa Dorlin. On a un petit décalage. Alors Elsa Dorlin est censée être avec nous, vous êtes professeure de philosophie à l'université Paris 8, notamment l'autrice de La matrice de la race, généalogie sexuelle et coloniale de la nation française, qui a été publiée aux éditions La Découverte en 2006, Sexe, genre et sexualité, introduction à la théorie féministe, c'était aux presses universitaires de France en 2008, et Se défendre, une philosophie de la violence, était publié également aux éditions de La Découverte, enfin chez Zone, en 2017, et vous avez donc beaucoup travaillé sur Judith Butler. Alors je regarde du côté de la technique pour voir si vous êtes de retour parmi nous, Elsa Dorlin.
Oui, bonjour.
Ah bonjour, ah, je suis ravi de pouvoir vous parler, j'étais un petit peu inquiet. Alors je voulais commencer cette émission, comme chaque émission, par vous demander comment est-ce que vous étiez rentré en contact avec l'œuvre de Judith Butler, peut-être même avec Judith Butler elle-même. Qu'est-ce que ça a pu produire chez vous et sur votre propre travail?
Je découvre les troubles dans le genre à la fin des années 90. Et surtout, je m'y plonge et je le lis en 2000, alors que je passe un an à New York. Et voilà, c'est vrai qu'il y a eu un effet un peu de déflagration sur la conception que j'étais en train d'élaborer. Par rapport au genre, par rapport à la question de la philosophie féministe, et surtout, je découvrais avec Butler en fait tout un continent de pensée et de généalogie intellectuelle que j'ignorais.
Elle le disait dans l'archive qu'on vient d'entendre, Judith Butler, quand elle écrit, elle tient la plume avec les féministes qui l'ont précédée. Elle cite Simone de Beauvoir, Monique Wittig. Qu'est-ce qu'elle leur doit, selon vous, et qu'est-ce qu'elle apporte, ce qui a pu vous intéresser, vous, dans son œuvre, Elsa Dorlin?
Ben justement, c'est intéressant dans les propos que vous diffusiez. Elle parle, oui, de Beauvoir, Wittig. Elle parle aussi de nouvelles questions féministes, donc de toute la tradition matérialiste du féminisme français, notamment celle portée par Christine Delphi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle met en perspective, en fait, ce corpus avec également le corpus du French Feminism, qui aux États-Unis ne désignait pas vraiment le féminisme français tel qu'il se faisait, mais qui était plutôt du côté de Lucie Rigaray, Hélène Cixous, etc. Et puis effectivement, elle s'inscrit, Butler, je pense, dans un... Enfin, en tout cas, elle ouvre ou elle dialogue avec tout un corpus du féminisme africain-américain, chicana, qui, tout au long des années 70-80, ont une contribution absolument majeure, notamment sur la question fondamentale du sujet politique du féminisme, c'est-à-dire qui est ce « nous » de « nous les femmes ». Et ça, c'est très marquant qu'elle soit, en fait, qu'elle tienne comme ça, à la fois, qu'elle s'inscrive dans cette continuité-là.
Alors il y a un paradoxe évidemment avec l'œuvre de Judith Butler, avec sa pensée, et qui rejoint d'ailleurs d'autres paradoxes qui peuvent émerger notamment dans l'actualité quand il est question par exemple de Black Lives Matter. On en parlera un petit peu plus tard dans l'émission, donc sur la question de la race, Elsa Dorlin. C'est que Judith Butler est une philosophe américaine qui travaille des auteurs français réunis sous le nom soit de French Theory, on en a déjà parlé au cours de l'émission, soit de French Feminism, mais qui en fait ne constitue pas, d'un point de vue français, en France en tout cas, qui ne sont pas forcément lus ensemble. Et donc c'est une lecture américaine de penseurs français, et cet aller-retour est souvent utilisé de ce côté-ci de l'Atlantique, chez nous, en France, pour décrédibiliser en quelque sorte cette pensée vue comme trop américaine. C'est ce que disait hier Eric Fassin à ce micro. Il disait, voilà, la première réception de Gender Trouble, c'était de dire c'est américain, ça ne nous concerne pas. Or justement, ce que vous montrez vous, Elsa Dorlin, enfin entre autres, parmi d'autres penseurs et philosophes ici en France, c'est que si ça nous concerne, il y a une forme, j'ose le terme, d'universalisme dans la pensée de Judith Butler.
Ben, je ne sais pas si on doit rapporter ça à quelque chose qui qualifierait la pensée de Butler d'universalisme, parce que ce serait une façon de rendre Butler légitime, et ce serait une forme de validation de la République française sur l'œuvre de Butler. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que oui, il y a une pensée sur la question de l'universel. Et c'est dans ce contexte-là qu'elle travaille, dans un débat qui, aux États-Unis, notamment au sein du féminisme, a interrogé en fait la question de l'universalisation du point de vue, d'un point de vue, celui des femmes qui n'est au fond que celui des femmes blanches issues de la bourgeoisie et plutôt dans l'hétérosexualité. Et dans les années 90, la façon dont Butler elle prend position, notamment avec Gender Trouble, mais elle le fera avec un article qui est très important, qui est publié en 91 sur la question du sujet politique. Ce qu'elle montre, c'est que, mais après d'autres, hein, parce que cette question de l'universalisation d'un point de vue qui pense parler de toutes les femmes, ou qui pense parler de la réalité de toutes les femmes, mais qui au fond ne parle que de l'expérience vécue et de la réalité, notamment des violences sexistes et sexuelles, que d'une partie des femmes qui sont plutôt justement privilégiées d'un point de vue du racisme ou du rapport de classe et de la sexualité. Ce que montre Butler, c'est au fond que ce sujet-là du féminisme, ce nous, il ne doit pas s'édifier sur de façon foreclose. Il ne doit pas s'édifier sur une définition unique de ce en quoi consiste le sexisme. Et ce que montre Butler, c'est qu'au fond, la question du sexisme, elle renvoie davantage à une matrice de normative qui utilise plusieurs modalités et qui joue justement sur les corps sexués.
Un mot encore.
Mais elle s'inspire. Pardon.
Non, je vous en prie, elle s'inspire.
Mais elle s'inspire en ça, elle prend en cela, si vous voulez, à la fois l'apport évidemment de Wittig, qui est très important, et dans le féminisme français, justement, il y a déjà une critique du sujet universel ou de l'universalisme qui est porté par les féminismes de façon historique, quoi. L'homme des droits de l'homme, évidemment, il a été déconstruit et critiqué par tout un courant. Féministe depuis, enfin qui est séculaire, mais cette idée qui est importante, c'est de dire on ne peut pas édifier le féminisme sur un sujet fort clos, et que cette définition de ce qu'est une femme en fait ne peut pas fonder le nous du féminisme.
Et alors justement, cette question d'ouvrir, hein, puisqu'il s'agit vraiment de ça, il ne s'agit pas de fermer la question du féminisme autour de cette articulation entre genre et sexualité, mais vraiment de l'ouvrir, de permettre une ouverture à la pensée et à l'action féministe, Elsa Dorlin, dans les travaux de Judith Butler, et donc en plaçant la sexualité au cœur du projet féministe, en plaçant cette question, par exemple, du lesbianisme au cœur du féminisme. Mais ça arrive malgré tout à une époque qui est une époque d'affrontement, de déchirure du féminisme. D'ailleurs, le féminisme n'est pas un, pas plus que les femmes, et donc a toujours été évidemment déchiré, puisque c'est une pensée politique, et une période qui, aux États-Unis, on appelle celle des sex wars, et donc où il y a un affrontement autour de cette question de la sexualité. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus sur ce contexte historique dans lequel arrive Judith Butler, ce contexte historique du féminisme?
Ça déjà, enfin, c'est vraiment la question de définir le, encore une fois, la question de cette identité femme comme étant par nature impliquée dans une violence, et que toute la sexualité ne peut être que violente. Ce qu'essaye de montrer Butler, mais avec d'autres, encore une fois, c'est que il y a des pratiques, enfin, c'est une assignation, une normalisation des corps en tant que corps sexuel, et que cette normalisation, elle est à la fois, si vous voulez, elle concerne à la fois finalement les femmes blanches qui sont assignées à une hétérosexualité reproductive, mais elle concerne cette matrice sexuelle en fait qui normalise, elle concerne également les femmes africaines-américaines qui, elles, n'ont pas été assignées par exemple à une hétérosexualité reproductive, mais qui ont été toujours dans le système d'oppression à la fois sexiste et raciste, opprimées, déniées dans leur statut de mère, ont subi des formes de stérilisation forcée, ont été complètement déniées dans cette hétérosexualité, justement. Donc en fait, Butler, elle, évidemment, dans les années 90, elle adresse aux féministes cette idée, ce sujet du féminisme, vous l'universalisez sur une condition matérielle d'oppression qui n'en est qu'une parmi d'autres. Et de ce fait-là, quand je disais, elle conteste cette idée de forclusion du sujet qui serait le fondement à la fois, par exemple, des communautés politiques comme la nation, mais aussi celle des mouvements politiques. En fait, elle ouvre sur la question des diverses modalités en fait d'oppression, et donc nécessairement qui ne peuvent pas réunir les individus lorsqu'ils ils se constituent politiquement sur une même expérience vécue de cette oppression.
Est-ce que vous diriez que pour Judith Butler, le genre doit être subverti parce qu'il est toujours en fait un signe de subordination des femmes? C'est-à-dire que il faut aborder cette question de l'assignation de genre sous cet angle-là, de la subordination et du pouvoir systématique. Et donc, en fait, le genre en soi doit être au cœur du projet politique féministe, Elsa Dorlin.
Non, alors là, non, pas du tout, vraiment, parce que je pense que c'est, encore une fois, même c'est ce sur quoi les travaux suivants de Butler vont ouvrir. Le genre c'est pas quelque chose de fixe, c'est pas une meilleure façon de parler du sexe, par exemple, parce que là, la critique vraiment fondamentale qu'elle fait, Butler, mais encore une fois, en s'inscrivant dans un débat plus large des années 80 et 90 sur cette idée. Des écueils d'une renaturalisation du genre, y compris dans le mouvement féministe. Et donc, au contraire, ce qu'il faut montrer, c'est davantage la dimension processuelle, ou en tout cas des matrices de domination qui peuvent utiliser des façons de genrer, de sexuer différentes, ou qui, selon la façon dont vous êtes perçu socialement comme un sujet genré, eh bien, ça peut être aussi une forme de validation en termes de classe ou vis-à-vis, par exemple, du racisme. Ça, c'est vraiment fondamental. Elle est aussi en dialogue, par exemple, avec toute une partie du féminisme chicana qui va montrer que cette question du genre, en fait, pris comme la seule opposition entre les hommes sont comme ceci, les femmes sont comme cela, ils ont telle ou telle valeur, on leur prête telle ou telle valeur, et les femmes au contraire sont considérées comme plus sensibles, inférieures, etc. Tout ça, ça ne marche que dans une forme quand même, que pour les femmes qui sont hétérosexuelle et blanche et dans une bourgeoisie américaine. Dès qu'on prend en considération en fait toutes les expériences et toutes les façons dont le sexisme a de normer et de produire des corps, eh bien on se retrouve dans ce qui a pu être considéré comme l'impossibilité du sujet politique du féminisme, l'impossibilité de dire justement un nous. Et ce que propose Butler, c'est de dire ce nous est possible. Précisément parce qu'il se constitue dans les luttes, dans les mouvements, dans la constitution en fait d'une revendication qui va être attentive à cette matrice hétérosexuelle qui produit et qui racialise et qui en même temps produit des privilèges en termes de classe.
Oui, parce qu'Elsa Dorlin, vous avez parlé de la violence désignée par Judith Butler, de l'assignation de genre, cette violence évidemment de ne voir qu'à travers un seul prisme les questions liées au féminisme, mais puisqu'il est question de la constitution du sujet qu'on a évoqué au cours de cette semaine, et encore, je le disais tout à l'heure, la pensée de Michel Foucault sur cette constitution du sujet, il faut dire que cette normativité, ces normes sont évidemment des outils de répression, mais sont aussi des outils de production, c'est-à-dire que c'est par là, ou contre cela, ou avec cela, que le sujet se construit, Elsa Dorlin.
Complètement, c'est à partir de là que le sujet se construit, et c'est aussi par exemple le débat qui avec Nancy Fraser, c'est-à-dire que lorsque Nancy Fraser reproche à Butler de dire finalement la perspective de Butler est une forme de dématérialisation des rapports de domination, où finalement on en arrive à penser la question du genre que d'un point de vue discursif, on pense les identités de genre comme purement revendicatives, mais performatives au sens qu'on pourrait décider, par exemple, et ce serait juste une culture identitaire. Butler lui répond non, cette matrice hétérosexuelle qui vient produire du corps, qui vient produire surtout des corps qui sont intelligibles socialement. Cette matrice hétérosexuelle, elle a à voir avec la matérialité. La matérialité, par exemple, que l'assignation à l'hétérosexualité, ça crée quelque chose qui s'appelle la famille, dans laquelle il y a de la reproduction des rapports sociaux, il y a de la reproduction de la force de travail, tout simplement. Et donc, elle récuse, en fait, cette idée d'une dématérialisation. Ce qu'elle pense, au contraire, c'est qu'il faut avoir une définition bien plus... qui s'intéresse bien davantage, en fait, encore une fois, à la façon dont on rend les corps vivables et la façon dont on va considérer que certains corps, en fait, certains individus, oui, des corps sont intelligibles socialement, ils sont productifs, ils sont intelligibles socialement, et du coup, ils sont dignes de se déployer dans une vie normale. Et ce qu'elle, son objectif, c'est bien de montrer la violence, en fait, dès lors que ces corps contestent cette normativité, contestent cette assignation, et qui produisent d'autres façons, en fait, de se dire et de se revendiquer.
As I turn to the question of Israel and Palestine,
lorsque je me suis penché sur la question du conflit israélo-palestinien,
I of course found myself writing about something that I have been thinking about my whole life.
Confronté à une problématique qui me préoccupe depuis toujours. Ce n'est pas un intérêt subi, ou ce n'est pas une réflexion venue d'ailleurs dans mon esprit. Au contraire, j'ai grandi intellectuellement au sein de communautés juives et sionistes, et par conséquent, au fil des décennies, j'ai été amené à réfléchir sur ce qui m'a été inculqué par rapport à ce que je crois désormais et ce pourquoi j'entends me battre.
That in this instance, we often see in the dominant media,
mais
the representation,
je dirais que dans les médias, on voit la représentation du peuple palestinien comme étant une population que l'on peut détruire en toute impunité. Évidemment, je pense que nous devons repenser les principes éthiques et politiques qui nous ont amenés à considérer une population tout entière de la sorte.
You don't know me. I'm not just one of your many toys. You don't know me. Don't say I can't go with other boys.
Vous écoutez France Culture, il est midi 22, c'est Avoir raison avec Judith Butler, et notre invitée aujourd'hui est la philosophe Elsa Dorlin pour évoquer à la fois la question féministe mais aussi les autres formes d'engagement de Judith Butler. On vient d'entendre, Elsa Dorlin, un extrait d'un entretien donné par Judith Butler à Sylvain Bourmeau sur France Culture en 2013. C'était à l'occasion de la publication de Vers la cohabitation, judéité et critique du sionisme, publié donc chez Fayard à ce moment-là. Et il y a donc cette question-là, il y a aussi évidemment l'engagement de Judith Butler auprès de Black Lives Matter. Il y a l'engagement de Judith Butler dans les mouvements Occupy il y a quelques années. Bref, on a vu, j'allais dire, un glissement, en tout cas un déplacement de Judith Butler, des questions de genre à d'autres lieux de domination. Comment est-ce que c'est fait, ce déplacement selon vous, Elsa Dorlin? Est-ce que, comme on le disait avant de passer cette archive, il est question d'abord du corps et du corps dans l'espace public?
En fait, elle passe pas du genre à autre chose, mais c'est à l'occasion du texte, si vous voulez, des normes de genre, qui sont aussi un texte social, qui vient rendre des corps visibles et qui vient rendre des corps à qui l'on adresse que l'on considère comme des corps qui sont dans des vies normales et donc que l'on laisse vivre d'une certaine façon. Et ce qui l'intéresse, par exemple, sur le genre, c'est tous les corps qui constituent un texte trouble, justement, dissonant avec cette matrice dominante. Et le point de bascule, c'est en partie Guantanamo, c'est en partie la question des images de torture de l'armée américaine de prisonniers irakiens ou de prisonniers exactement irakiens, et sur la question aussi de la façon dont la sexualité et le genre sont utilisés pour humilier des corps, pour rendre des corps abjects, pour les ramener en fait à des corps qui ne sont pas dignes d'être considérés. Et tout ce déploiement à la fois à travers, si vous voulez, justement toutes les vies tout le peuple sexuel ou genré qui dissonne avec la norme. Et la façon dont le genre et la sexualité peuvent aussi être utilisés dans des formes de racialisation et d'abjection, elle va monter en puissance en montrant en fait que effectivement l'espace public, mais plus largement la question de la constitution d'une communauté politique, c'est aussi la définition normative des vies qui sont dignes d'être vécues et de celles que l'on rend indignes, que l'on rend invivables. Et c'est ça la question de la domination. Les rapports de domination se jouent dans le fait de rendre des vies invivables. Et ça peut être jusqu'à les rendre tuables, comme justement les vies africaines-américaines aux États-Unis, par un système, et un État raciste, qui considère que le corps noir est un corps tuable et que son apparition dans l'espace public est régulée par cette idée d'exposition permanente au risque de mort. Donc l'importance de l'apparition va devenir aussi chez Butler l'enjeu de la mobilisation. Apparaître, occuper l'espace public ensemble, que les corps se rassemblent, ça dit quelque chose sur une contestation des normes par rapport à des vies vivables. Et la politique aujourd'hui pour Butler, c'est de construire des formes de vie vivables contre justement un rapport de pouvoir qui rend ces vies invivables.
Et c'est ça qu'elle appelle la coalition, penser la coalition, c'est-à-dire refuser aussi de hiérarchiser ces différents enjeux de lutte en trouvant des slogans, des façons de s'exprimer communes, et justement, encore une fois, autour de cette question des corps dans l'espace public.
Exactement, mais c'est aussi, si vous voulez, sur la question palestinienne, la question palestinienne chez Butler, mais elle le reprend aussi, et en partie, il y a une discussion avec son tag sur le texte de...
Susan Sontag.
Voilà, que faisons-nous, enfin, que nous fait la violence, la souffrance des autres, et pourquoi certaines vies nous semblent dignes d'empathie alors que d'autres nous détournons le regard, et cette idée du regard qui se détourne des vies massacrées, des vies des populations qu'on pousse dans des vies qui sont devenues invivables et qui sont aussi des populations tuables, le fait de détourner le regard, ça signifie que, y compris notre regard, en fait, est construit dans un cadre d'intelligibilité, dans un cadre, dans une... il passe par le prisme, un prisme qui fait que on peut à la fois détourner son regard et donc de être indifférent, choisir les victimes qui en fait il y a un choix dans la victime qu'on va pleurer, il y a un choix dans les vies dont on fait le deuil ou pas, et d'autres on considère que c'est juste des faits divers ou que c'est etc. Et ce qui est fondamental, c'est dans le fait de détourner son regard, eh bien c'est un blanc-seing, c'est une validation, une légitimation de la violence faite à ces corps ou à ces populations. Et ça, Butler le refuse. Et c'est ça qu'elle conteste, et c'est précisément là-dessus qu'elle articule en fait toute une philosophie politique de l'engagement et de l'apparition, qui est aussi une forme de pensée de la cohabitation, c'est-à-dire de non pas tellement de se coaliser, mais de cohabiter dans l'espace public, même si on n'est pas d'accord, même si on n'est pas au départ un même sujet, mais on le devient par le fait de ensemble, de se rassembler ensemble et de contester justement le cadre d'intelligibilité qui nous fait, qui est vraiment sur cette idée de vie, hein, de vie digne d'être vécue. Vous savez, elle a cette très belle phrase qu'elle reprend, et l'interrogation fondamentale de Butler en reprenant Adorno, et où elle s'interroge, qu'est-ce qu'une vie bonne dans un monde mauvais ?
Qu'est-ce qu'une vie bonne dans un monde mauvais ? Il en sera question demain, Elsa Dorlin, évidemment, pour notre dernière émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui à la réalisation. C'était Vanessa Nadjar. À la prise de son, Jérémy Kaufmann. Demain, donc, comme je le disais, nos invités seront Corinne Peluchon et Zeynep Gambetti, et on parlera des questions de vulnérabilité, de vie qui valent la peine d'être vécues. Avoir raison avec Judith Butler, c'est terminé pour aujourd'hui.